Sur les fondements, Manuela, est-ce que tu es là? Tu avais quelque chose par rapport à ce matin qui était sur ton cœur? Donc, ce serait bien que tu commences. Donc, nous en sommes toujours au fondement de cette vision, la motivation biblique, l'enracinement biblique dans une perspective du royaume de Dieu, perspective large, perspective de réforme. Vous avez vu qu'on sort bien de la notion d'une petite école repliée sur elle-même, etc. C'est vraiment une autre vision. Voilà, Manu.
C'est surtout un exemple. Vous savez, il y a ce fameux passage qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus ». Et en entendant Luc tout à l'heure, j'ai réalisé un peu les différents fruits qui sont sortis de notre école. Donc la première génération, comme Luc vous disait, eh bien, les 30 premières années, on savait que Dieu nous avait mis, nous, à l'école, comment faire sortir l'Égypte de notre tête et comment laisser la parole nous influencer. Et c'est vrai qu'au début, notre école, on a eu de très beaux fruits avec les enfants, jour après jour, mais les enseignants, le corps enseignant, avaient tous été éduqués en fait dans les écoles publiques et laïques. Donc c'était des profs chrétiens qui enseignaient ce que l'on enseigne à l'éducation nationale, mais aux élèves. Donc on avait aussi des familles non chrétiennes qui étaient là. Donc voilà, alors là on voyait les enfants s'épanouir, venir à Christ, on a vu une jeune fille de famille non chrétienne se convertir, donc il y avait vraiment quelque chose qui était transmis, mais on peut voir aujourd'hui combien c'est différent et que Dieu a beaucoup plus pour nous, comme Luc le disait tout à l'heure, c'est comment connaître la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Et j'ai mon fils aîné qui me dit un jour, oui mais maman, moi à l'école j'ai appris que ce qu'il me fallait, en fait si on allait à l'école c'était pour avoir un bon métier. Et alors là, je suis restée assise et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est pourtant pas ce que nous, on a voulu transmettre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a reçu ça ? Mais David, mon aîné, il a l'âge de l'école. Donc, il a fait partie des tout premiers. Et c'est là où j'ai réalisé que si nous, enseignants, nous enseignons nous croyons et nous sortons de cette génération qui croit que bah voilà, c'est nous qui devoir pourvoir à nos besoins, que nous sommes encore dans cette mentalité de la malédiction, parce que c'est une malédiction, hein, vous savez, la chute d'Éden, c'est voilà, l'homme, bah, tu travailleras et ça sera à la sueur de ton front que tu vas avoir ton pain. Eh bien, si c'est ce que l'on transmet à l'école, c'est pas ce que l'on veut. Donc, ça commence par des vies transformées et savoir quel est nous notre but. Est-ce que c'est de servir Dieu, de chercher d'abord le royaume de Dieu? Et ce qui est extraordinaire, c'est que de voir dans nos écoles, les enfants voient cette dimension dans le concret, par tous les miracles que l'on vit. Et surtout, ils apprennent à rechercher Dieu d'abord. Et l'on voit très rapidement que si la parole de Dieu est mise à la base, eh bien les jeunes redeviennent ce que Dieu a prévu qu'ils soient. C'est une réponse pour notre société, c'est-à-dire créatif, comprendre le cœur de Dieu pour les questions qui se posent dans le monde d'aujourd'hui et donner des réponses selon le cœur de Dieu. Et c'est toute une créativité qui peut venir parce qu'on est de nouveau enraciné sur cette source qui est le Christ lui-même. Et on voit des enfants dès le CM2 qui commencent à avoir des réponses. Ils disent, ah, ils ont entendu les nouvelles avec le prof, parce qu'on revoit les nouvelles, et disent, mais, ah oui, mais on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et du coup, on voit ce Genèse 1 et 2 s'incarner dans l'école, c'est-à-dire que Dieu enseigne des fils et des filles au travers de cœurs de père et de mère pour leur apprendre à régner. Et régner, ça veut dire prendre soin, ça veut dire s'occuper de l'écologie, ça veut dire les hôpitaux, ça veut dire reprendre tous les domaines de la société, parce qu'on a compris qu'on est fils et filles de Dieu, et que quand on transmet le cœur de Dieu, et du coup on a tous les moyens qui sont à notre disposition, parce que Dieu donne selon son cœur et veut donner en abondance. Et du coup, ce matin, je disais, mais oui, c'est nous qui avons été à l'école, et combien ce que Luc apporte et l'ISP est important, parce que si nos enseignants ne sont pas réenseignés avec cette vision biblique du monde, eh bien, on ne peut pas la transmettre pleinement. Et il faut savoir que l'école aujourd'hui, elle est le fruit, entre autres, de l'industrialisation du siècle des Lumières, quand on a mis Dieu à la porte. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que l'on veut pour demain ? Et ce que l'on voulait, c'était de bons ouvriers, de bons contremaîtres. Donc d'ailleurs, vous l'avez remarqué, à l'école, dans l'école publique, on coupe la tête à tout ce qui est leader et à tout ce qui est créativité. Ça n'a pas vraiment de place. Parce que ce que l'on veut, ce sont des gens qui sachent bien obéir et transmettre ce que l'on enseigne. Et nous, ce n'est pas ce que l'on veut enseigner à l'école chrétienne, on veut enseigner une génération avec un esprit critique, c'est-à-dire qui peut revoir tout ce qu'on lui enseigne selon la parole et pouvoir le revoir autrement. Et on voit nos élèves, quand ils réintègrent le public, on dit « mais tu viens d'où toi ? Tu poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on dit « on vient du collège Daniel ». Donc voilà, je réalisais vraiment qu'on est en train de remettre les fondements de l'éducation, et alors qu'on remet ces fondements, nos jeunes vont être cette réponse dans tous les domaines. J'ai un de mes fils qui me disait « Maman, ce qu'on a appris, c'est qu'on est sans limite. » C'est-à-dire qu'on peut regarder ce qui se passe aujourd'hui sans être déprimé, mais en disant « Mais Seigneur, et toi, comment tu vois ça ?» Et alors toute cette créativité qui se remet en route avec nos élèves, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ne regardons non pas à nos petits commencements, mais vraiment on croit que, alors que l'on revient, que des profs, des pères, des mères se lèvent pour revoir l'éducation avec le cœur de Dieu et selon sa parole, on va voir des fruits vraiment différents.
Tu disais reprendre les domaines, on s'entend bien, c'est pas une croisade, mais c'est être sel et lumière, c'est-à-dire reprendre nos responsabilités dans les domaines où on s'est déresponsabilisé, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la prétention de dominer les gens ou de dominer des secteurs, c'est pas ça, mais c'est d'être pleinement responsable. Alors, on continue les fondements, on a vu ces fondements de la parole, ces commandes de Dieu, ces grands mandats, et là, il y a un fondement bon qui est plus commun peut-être, mais vous le connaissez, c'est le fondement de l'amour du Père. Vous avez ici dans 1 Jean 2, les trois stades. Hein, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. Que vous avez vaincu le malin. Pendant longtemps, je voyais ce texte, et c'est juste de le voir comme ça, comme trois stades spirituels. Il y a un stade de petit enfant, quel que soit l'âge d'ailleurs. On peut être au stade du petit enfant, même en tant que vieillard, petit enfant dans la parole de Dieu, dans la marche de l'esprit, etc. Mais un jour, je lisais ce texte, et c'est comme si je sentais ce cœur, le projet pédagogique de Dieu. C'est-à-dire que les stades spirituels qui sont décrits ici correspondent au stade de développement physique de l'enfant. C'est-à-dire que le petit enfant, physiquement, maternel, CP, CE, le petit enfant, eh bien, il est connu par le père. Il sait qu'il y a un père. Voyez, il sait qu'il est pardonné. Et puis le jeune Jean, donc l'ado, il a vaincu le malin. La parole de Dieu est en lui. Voyez. Et ça, c'est la dissociation entre le développement physique. Il développe spirituel n'est pas le meilleur. Il y a une association des deux que tous les petits enfants, eh bien, connaissent le père. Et donc les programmes de maternelle, d'ailleurs, vous savez que le mot maternelle va être effacé. Vous êtes au courant. Il n'est plus supporté parce que la vision, le mot maternelle, ça voudrait dire que les parents ont quelque chose à voir dans l'école, ce qui est l'origine des écoles maternelles, d'ailleurs. Mais donc, on veut les appeler les écoles de la petite enfance, parce que le mot maternel, on le supporte plus. Il y a d'autres mots qu'on supporte plus, et je disais il y a plusieurs années déjà, c'est le mot université, parce que ça véhicule une vision biblique du monde. Uni, unité, versité, unité dans la diversité, c'est un mot qui vient du Moyen-Âge, avec une vision biblique que toutes les sciences et la connaissance sont réunies en Christ. Et donc, un recteur d'université de Californie et de Paris, de Nanterre, ont écrit dans l'Express, ils ont dit « Nous voulons plus ce mot, nous voulons multiversité, parce qu'il n'y a pas d'unité dans la connaissance. » On enlève le Christ, la vision biblique, donc même les mots, il n'y a plus que les mots si vous voulez, c'est des vestiges d'une vision du monde biblique, mais les mots sont attaqués aujourd'hui, on n'en veut plus. Et c'est jusqu'à quand, si vous voulez, on va supporter en fait Il y a un combat spirituel qui est derrière. Donc cet amour du Père, voyez, que les écoles maternelles soient des lieux de sécurité où l'esprit de Dieu Père et Dieu Mère communique et enracine l'affectivité des enfants, etc. Ça, c'est quelque chose de fort. Et dans l'histoire, je rappelle juste, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais l'origine des écoles maternelles en France, c'est venu dans ma région, en Alsace. Au XVIIIe siècle, il y avait ce pasteur Oberlin, pasteur protestant, qui avait une vision pour l'éducation. Puis un jour, il se promène dans sa paroisse, c'est des montagnes. C'est dans les montagnes des Vosges, vous êtes à peu près à 900 000 mètres d'altitude, 6 mois de neige à l'époque par an, et il entend dans une ferme des chants d'enfants qui louent le Seigneur. Alors il rentre dans la ferme et dit, et qu'est-ce qui se passe? Il voit une jeune fille dans une grande salle, c'était une salle avec le poêle au milieu, parce qu'il faisait très froid dehors, et elle était entourée de petits enfants comme ça, et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle dit, mais personne ne s'occupe des enfants, donc moi je m'en occupe. Et je leur apprends ce que je sais, c'est-à-dire le tricot, la lecture biblique et prier et chanter pour Dieu. Et bien ça, c'est le premier programme historique des écoles maternelles. C'est le début dans l'éducation nationale. Vous avez dans les papiers sur école maternelle l'origine. Il redonne le nom de cette jeune fille qui s'appelait Sarah Banzet. C'est la première institutrice maternelle avec une vision pour les enfants. Adoration, prière. Et les premières écoles maternelles, on les appelait les salles à tricoter, parce que c'était le premier mot pour les écoles maternelles. Donc voilà, et puis alors bien sûr, tout ce qui est éducation, formation professionnelle, formation pour adultes, alphabétisation, école maternelle, tout, université, tout, sans aucune exception, a été la volonté des chrétiens, le cœur du Père qui veut éduquer et former. Et tout, sans exception, s'est fait voler. Il y a un moment dans Ésaïe, il est dit « Le pays est livré au pillage, il n'y a personne qui dit restitue. » Et dans le monde de l'éducation, c'est très très fort ça, c'est très pertinent. Alors, comme une autre vision de l'homme, pourquoi des écoles chrétiennes? Tout simplement parce que non seulement il y a une autre vision du monde, hein, mais une autre vision de l'homme. Et en fait, on ne peut pas se contenter de l'école actuelle, même s'il y a des très bonnes choses, hein, et on rejette pas, mais je crois qu'il y a Dieu nous donne une autre vision de l'enfant, une autre vision de l'homme. Et là, je cite un frère morave, Comenius, c'est un des grands pédagogues, un des plus grands dans l'histoire. Il est enseigné aujourd'hui dans toutes les facultés de sciences de l'éducation. On ne dit pas qu'il est chrétien, mais on parle de Comenius comme le grand pédagogue. Et Piaget, le chercheur suisse Piaget, a dit de lui, c'est le Galilée de l'éducation. C'est-à-dire qu'il a découvert dans l'éducation des tas de pistes dont aujourd'hui ça paraît évident. Par exemple, un enfant qui apprend en manipulant, ça paraît commun aujourd'hui, ça vient de lui, etc. La salle de classe doit être lumineuse, ça vient de lui. Il faut que l'enfant apprenne en jouant, ça vient de lui. Mais lui, c'est un homme de Dieu, frère morave. Donc il a vécu la guerre, il a vécu les guerres de religion, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a été réfugié, il a quitté son pays en tant que réfugié, il monte sur une montagne, sur la frontière, et l'histoire nous dit que cette communauté qui vient de l'actuel, aujourd'hui c'est en République tchèque à peu près qu'il était, donc il quitte leur pays, nous sommes dans les années 1700 et quelques, et pour la dernière fois, ils se retournent sur leur pays dévasté où ils ont perdu leur bien-aimé, et il y a une parole prophétique là. Et ça, c'est l'histoire, hein, c'est pas. Et Dieu qui parle, parce qu'ils avaient un temps de prière, une dernière fois qu'ils voient leur pays. Et Dieu qui dit, dans 100 ans, votre descendance ira toucher pour l'évangile les extrémités de la terre. Ce serait une bénédiction. Dans 100 ans. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans 100 ans, on n'existe plus. Quand on a la parole de Dieu, dans 100 ans, t'es plus là, hein. Mais, lui, il s'est dit, cette parole, elle est de Dieu. Et on va tout faire pour qu'elle se réalise. Et donc, il a été l'artisan, le théoricien de ce qu'est une école chrétienne, de ce qu'est une éducation selon Dieu. Il a été parmi les plus grands au niveau des rois de l'époque, etc. Tout le monde se l'arrachait. Même en France, ils ont voulu l'avoir. Richelieu, en pleine persécution des Huguenots, eh ben, ils ont voulu, ce nom était tellement connu que Richelieu voulait l'avoir, qu'il fasse une université, je crois, ou un truc comme ça, en Angleterre. Enfin, bref, c'était vraiment. Et il avait une vision pour les enfants. Regardez ce qu'il dit. Tu les considéreras comme les futurs habitants du monde, les propriétaires de la terre, les vicaires de Dieu parmi ses créatures, mais surtout comme les parents du Christ au même titre que nous, un peuple choisi, les pères des anges, les juges des diables, les délices du ciel, la terreur des enfers, les héritiers des plus grandes dignités pour les siècles des siècles. Peut-on concevoir quelque chose de plus grand que les enfants ? Donc, quand vous avez une vision comme ça, et de Dieu, et des enfants, il est bien évident que Dieu va vous parler de pédagogie, d'outils, etc. Donc, ça commence toujours par une vision de Dieu et par une vision des enfants. Donc, une grande vision élevée. Qu'est-ce qu'un enfant ? Un autre, M. Vinet, qu'on a cité tout à l'heure, pédagogue suisse, théologien, 19e siècle, il dit « Le chrétien seul conçoit toute la dignité de l'instruction, c'est l'héritier du ciel qui forme dans ses écoles, c'est en vue d'un bonheur spirituel éternel qu'il apprend l'enfant à lire, à écrire. Ses maîtres sont en quelque sorte des apôtres, ses élèves des prosélytes, ses écoles des temples, la science qu'il enseigne, la science même de Dieu. » J'aurais voulu vous mettre ça en parallèle avec le dernier discours de M. Peillon il y a 2 ans. Il emploie les mêmes mots autrement. Il dit ceci, il dit « Il faut que les écoles soient des lieux où les enfants soient libérés de tous les déterminismes religieux et les préjugés des parents. Et il faut que les écoles de la République soient les nouveaux temples où on enseigne une nouvelle religion, des nouvelles tables de la loi qui seront les principes de la République. » Et des nouveaux prêtres qui seront les instituteurs et les enseignants des valeurs de la République. François Peillon, il y a 2 ans, dans son livre. Donc, nous avons un renversement, nous avons un discours révolutionnaire qui est là. Et quand il dit « l'école n'est pas neutre, elle n'a jamais été neutre », il y a comme quelque chose qui était caché, si vous voulez, pendant longtemps, et qui tout d'un coup se dévoile au grand jour. Alors heureusement qu'il n'est pas suivi partout, mais moi je suis étonné de voir l'opposition des langages, le langage religieux pour parler de valeurs d'aujourd'hui. Donc Vinet a été cet homme qui a vraiment eu une vision pour les écoles protestantes en particulier, et qui s'est effaré à la même époque de voir ce qui se passait en France, que tous ces mêmes protestants, eh bien, ils perdaient toutes leurs écoles par choix délibéré. Je crois que quand on a une vision de l'enfant, on a une vision d'une destinée. Et c'est là la vision des parents de Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Donc ses parents ont quand même misé gros. C'était pas évident d'aller contre un pharaon, contre la loi. C'était contre la loi. Alors nous, on peut se dire, attends, la loi, il faut s'y soumettre. Bien sûr, il faut s'y soumettre. Mais est-ce que vous savez qu'au moment où je parle, il y a des parents qui sont emprisonnés en Allemagne parce qu'ils ont voulu éduquer leurs enfants à la maison. Et ils sont en prison. Nous avons actuellement en Europe et dans d'autres pays du monde des parents qui ont refusé un certain type d'enseignement qui est contraire à leurs valeurs. Et le prix est payé et cher. Je pense aux États-Unis. Il y a un grand mouvement d'écoles chrétiennes depuis longtemps, depuis après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce début d'implantation d'écoles, ça n'a pas été évident. Moi, je croyais que c'était facile chez eux. Mais quand j'ai vu l'histoire et le prix qu'ils ont payé, mes amis, eh ben, c'était pas évident, c'était pas joué. Et ces premières écoles, ça a été un combat juridique. J'ai vu des articles d'anciens journaux où vous aviez des descentes de police, fermeture d'écoles, emprisonnement de certains parents. Ça a été le prix d'une génération qui a voulu percer pour qu'il y ait une liberté dans l'éducation. Et ils ont eu gain de cause finalement. Et c'était le mouvement d'écoles chrétiennes implanté, mais par milliers. Mais il a fallu un groupe, si vous voulez, qui y croit et qui ait une vision. Donc les parents de Moïse, ils ont vu que leur enfant était beau. C'est pour ça qu'ils n'ont pas craint. Donc en fait, si vous voulez, quand on parle d'écoles chrétiennes, c'est vrai que tout de suite, alors je peux vous dire, hein, Il y a un coût. Il y a des scolarités. C'est pas gratuit. Parfois, elle est pas à côté de la maison. Il faut faire des kilomètres. Chez nous, il y en a qui font jusqu'à 80 kilomètres par jour, pour mettre leur enfant. Donc, il y a un coût. Ça demande un investissement. C'est impossible à faire s'il n'y a pas une vision. Mais ces parents qui le font, ils le font pas parce qu'ils veulent souffrir. Ils le font parce qu'il y a une vision. Et d'ailleurs, ces parents qui venaient de toute la région d'Alsace, et pas fous les parents. Il y en a qui venaient de Saint-Louis, ils se sont dit, bon, on en a marre de faire les kilomètres, on va faire notre école. Donc ils ont fait l'école Emmanuel. Ceux qui venaient de Belfort, Pareil, ils ont dit, ça fait, on en a marre des kilomètres, on va faire notre école. C'est l'école Farrell à Belfort, etc. C'est comme ça que les écoles sont nées. Alors, chaque fois, on a perdu parfois 20, 30 élèves d'un coup, mais ça multiplie les écoles. Et moi, je crois que là, il y a ce cœur de Dieu. Mais il faut une vision. Ils ont vu quelque chose. Et c'est là qu'en tant que parent ou éducateur, la question que Dieu nous pose, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu, comme Dieu voit, nos enfants? Et pas seulement nos enfants, d'ailleurs, hein, mais tous les enfants. Hein. Est-ce qu'il y a une vision? Et Ésaïe 49, alors ça, c'est le comment Dieu fait les prophètes, regardez. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois, etc. Donc, l'éducation des prophètes, c'est toujours à l'abri de Dieu. C'est systématique, hein. Prenez l'éducation de Moïse. Alors, bien sûr, il a été dans la cour de Pharaon, mais il a dû désapprendre. Et avant de leader le peuple, 40 ans de désert, et il a été cet instrument. Il se sentait plus fort ni costaud. Il disait, j'ai besoin de Dieu, au secours. Il se sentait faible. Mais avant, c'était un prince, mais il a fallu qu'il désapprenne pas mal de choses. Vous prenez Ésaïe, c'est pareil. Dieu, il éduque à l'ombre de sa main. Vous prenez par exemple les exemples de Dieu qui dit « Je suis un abri pour toi ». L'abri, c'est biblique. Il y a des gens qui disent « Mais non, il faut pas que les enfants soient à l'abri ». Excusez-moi, trouvez-moi un seul passage d'écriture où la formation se fait pas à l'abri. L'abri est une valeur biblique, 100%. Non pas pour y rester, mais pour être formé. Et c'est là que je prends souvent l'exemple... Les anciens connaissent cet exemple dans l'horticulture. Hein, vous prenez une graine de fleurs, de plantes, vous la jetez dans un champ, et ce plant-là aura moins de chances de grandir qu'une graine que vous mettez sous serre. Et vous attendez que le plant soit bien fort, vous transplantez ce plant, et bien celui-là, il affrontera les intempéries bien plus que les autres. Hein. Alors, cette notion de l'abri, il y en a qui disent, mais il faut se frotter à la réalité. Et la réalité de notre monde, c'est un monde cruel, c'est un monde dur. Il faut que nos enfants soient prêts à l'affronter. Donc, conclusion, il faut qu'ils fréquentent, qu'ils soient au contact de la réalité. Mais la réalité, c'est quoi? Alors là, c'est la question philosophique. Hein. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est Dieu, me dit la parole. Ces chaises, ce bâtiment, déjà, qui s'effrite au niveau des fondations. Tout ça, ça va partir, comprenez? Mais la réalité, Dieu, lui, est éternel. Se frotter à la réalité, c'est se frotter à Dieu. Et celui qui se frotte à Dieu est bien plus capable que n'importe qui à affronter les intempéries du monde. Donc, attention à ce qu'on considère comme force ou faiblesse. Les caïdes qui paraissent fortes sont absolument détruits de l'intérieur et profondément faibles. Dieu veut lever une génération forte, mais forte dans l'identité, forte dans le sens de qui ils sont. Forte dans la sécurité. Et Dieu, l'ombre de sa main. Et il dit, je fais de toi une flèche aiguë. Et là, pareil, l'image guerrière de la flèche qu'on a lu de Deutéronome 6, rappelez-vous. Tu inculqueras la parole. Ça veut dire, tu aiguiseras. C'est aiguiser la parole. Enseigner, en hébreu, c'est yachad. Il y a cinq termes hébraïques pour enseigner. Un des mots, c'est yachad. Ça veut dire, comme par hasard, tirer des flèches. Enseigner, ça veut dire tirer des flèches. Donc, si tu as plein de flèches dans le carquois, Dieu dit, il faut les tailler, et puis il faut les lancer. Parce qu'une flèche, elle est faite pour atteindre une cible. Hein? Donc, nous, on a quatre flèches, six petites flèches maintenant. C'est-à-dire, le but, c'est qu'elles atteignent la cible. Et voilà. Et cette taille des flèches, eh ben, elle se fait à l'abri du Seigneur. Donc, cette notion d'abri, attention, il faut savoir répondre. Hein? Il y a des fausses conceptions. Et vous, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'on pense, la plupart pensent comme ça, il ne faut pas d'abri. Mais tout d'un coup, mais bien sûr, j'ai compris, parce qu'on a été formé à penser comme ça. Mais bien sûr. Donc, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on arrête de penser comme on a appris à penser. Donc, il y a une sorte de mépris pour l'abri qui est absolument antibiblique. Dieu valorise l'abri. Il dit, je suis ta forteresse, pas pour y rester, et pour t'y réfugier, pour y être formé, et pour ensuite être pertinent dans ce monde. Et cette vision de l'instruction de l'enfant, Vinet continue, le chrétien seul conçoit toute la dignité de l'instruction. C'est, bon, on l'a dit, hein, c'est l'héritier du ciel qui forme dans ses écoles. Moi, je rajouterais, l'hérédité de la terre. Et regardez la suite, l'idée de former l'homme, l'homme tout entier, dans les écoles de la patrie. Il écrit donc dans les années 1880, hein, n'est pas encore venu à bien des gens. C'est que le respect de l'homme nous manque. Qui pourrait s'en étonner lorsque toute idée élevée de son origine, sa destination, s'est peu à peu effacée de la plupart des esprits. Aussi suis-je persuadé que si jamais cette importante réforme est opérée, qui doit faire des écoles une fabrique d'hommes et de l'instruction un hommage à la dignité de notre nature, elle sera due à des hommes éclairés d'une autre lumière que celle que nous voyons briller en France, à des hommes que le respect des choses divines aura conduit au respect de l'humanité et qui auront appris à reconnaître l'héritier du ciel dans le fils de la poussière. Là, il écrit ça au XIXe siècle. C'est fort quand même. Hein. Donc là, il nous rappelle que c'est la vision de Dieu et de l'homme qui va déterminer la qualité de l'éducation. Et je crois, une des choses pertinentes aussi pour la notion d'école chrétienne, c'est l'amour. L'amour de la vérité. Et l'amour tout seul, et la vérité aussi toute seule. Lorsqu'il est dit, Dieu qui dit, je vous dis en vérité, etc. Celui qui ne ressort pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Il les prit dans ses bras, il les bénit, leur imposant les mains. Vous avez cette notion d'un Dieu qui veut bénir. Il faut que l'école, c'est un lieu où l'on bénit. Ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est un lieu où l'on bénit. C'est-à-dire un lieu où les enseignants disent, c'est bien, tu y arriveras. Tu as une destinée, tu as de la valeur. Je t'aime comme un fils. Vous voyez, ce discours, ça paraît tout simple, mais ce discours-là, quand il vient quelque chose de sincère et de Dieu, je peux vous assurer, ça construit un enfant. Ça le construit, ça le prépare à tout. Et Dieu, donc ça, c'est le cœur de Jésus, les prendre dans ses bras, les bénir en imposant les mains. Donc je sais que dans les écoles chrétiennes, on a tous des petits trucs pour ça. Par exemple, on dit des profs, ils ont parfois, quand t'es prof de musique, hein, t'as plein d'enfants, t'as plein de classes. Tu dis comment encourager un enfant? Donc il y a des systèmes. On s'est dit voilà, ben chaque semaine, on veut un encouragement au minimum par semaine pour chaque enfant. Donc tu te débrouilles, mais tu t'encourages, quoi. Tu te débrouilles. Alors parce qu'on sait très bien quand il faut pas encourager, hein. Mais quand il faut encourager, c'est dur. Et même chez nous, après 30 ans, j'ai dû remarquer dernièrement dans les bulletins scolaires qu'on a. Il y a toujours cette tendance des profs à relever ce qui va pas. Alors je dis, mais il faut arrêter. Alors quand vous demandez, ouais, mais si j'encourage trop, il va s'arrêter de travailler, quoi. Mais il faut arrêter. Dieu est un Dieu qui encourage. Et donc, notre culture de France, elle n'encourage pas. On a une fois un missionnaire américain qui vient chez nous, qui enseigne, et puis il mettait 19-20. Je dis, mais attends, mais ça se met pas en France. Et il était choqué. Ah, bon? Et je lui ai expliqué, mais maladroitement, mais maintenant, ils ont un autre système de notation. Et les pays en Europe où ça va le mieux, ils notent plus. Ils notent plus. Vous prenez la Finlande, ils ont le meilleur système, c'est les meilleurs. Mais c'est terminé. Il n'y a plus de sentiment d'échec. Alors nous, en France, on dit, mais non, surtout pas. Il faut pousser, il faut la compétition, il faut noter pour qu'ils sachent où ils en sont. Voilà. Là, on a des tas de questions. Comment Dieu, lui, s'il était dans la salle de classe, qu'est-ce qu'il ferait? Et même, j'irai plus loin, est-ce que la salle de classe telle qu'on la conçoit, c'est selon le cœur de Dieu? 4 murs, des chaises, des tables, un tableau. Est-ce que c'est le lieu où Dieu veut vraiment qu'on apprenne comme ça? Un jour, dans une conférence internationale, j'ai posé la question, je me rappelle, il y avait des chefs de réseau, tout ça. Et vraiment, c'était pas une blague pour moi. J'ai dit, donnez-moi le fondement biblique d'une salle de classe. Dans sa, voilà, table, chaise, tableau. Hein. Alors, ils ont souri, mais moi, c'était une vraie question. Je me disais, et si on apprenait en marchant, en se promenant, en découvrant, etc., etc. Et je pense qu'on est encore, Dieu veut nous parler, nous faire sortir des chemins comme ça qui sont tracés, qui semblent tout bien, mais peut-être que c'est pas bien, hein. Alors moi, j'ai pas la réponse toute faite, mais je me dis, il faut être prêt à faire table rase et à se dire, Seigneur, comment tu vois, toi, les choses? Dernièrement, on a vu c'est Nicole Sissia qui nous a passé un DVD. Je sais pas si tu connais Nathalie, c'est un DVD qui, comment ça s'appelle, Manu, le titre? Être, devenir. Être et devenir. C'est des enfants qui apprennent, mais c'est même pas l'école à la maison. C'est même pas l'école à la maison, c'est plus l'école du tout. Mais ils réussissent autant que les autres. Ils apprennent selon les, voilà. Ils apprennent, mais autrement. Quand tu t'as passé ta vie dans les écoles pendant 30 ans, tu dis mince, si l'école c'est autre chose encore, ça fait drôle. Mais voilà, je crois qu'il faut être prêt à se dire Seigneur, que revisite nos façons de voir. Et vous avez le Maritain qui dit ceci par rapport à l'amour, il n'y a pas d'autre fondement à la tâche éducationnelle que l'assertion éternelle, c'est la vérité qui délivre l'homme, pardon, la notion de vérité qui délivre. Jésus a dit la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Et quand on a des discours qui disent que la religion, c'est ce qui a servi, c'est ce qui empêche d'être libre. Alors bien sûr, on est d'accord, certaines religions. Mais le Christ, lui, c'est pas une religion, c'est une personne. Et cette personne, elle nous affranchit. Voilà. Mais on est dans un contexte de société, et je comprends qu'il voit le si on pense, si on n'est pas autonome, alors on est des sous-hommes, quoi. Mais nous, dans nos écoles chrétiennes, on prêche pas l'autonomie dans le sens, il faut apprendre tout seul. On enseigne, alors ça, je veux pas scandaliser les gens, mais on enseigne la dépendance de Dieu. C'est pas pareil. On n'est pas fait pour marcher tout seul dans la vie. On est fait pour marcher dans un corps interdépendant les uns des autres. On est fait pour marcher dépendant de l'esprit. On est fait pour marcher que sans l'esprit, on peut pas faire grand chose. Et cette culture de la dépendance, elle doit faire sauter la culture de l'autonomie et de l'indépendance, du tout seul, je travaille pour moi, tu travailles pour toi, etc. Ça, il faut faire sauter. Le cœur de Dieu, c'est qu'on travaille pas pour nous. On travaille pour les autres. Le cœur de Dieu, c'est que les dons que tu as, tu vas les mettre au service des autres. Donc, il est faux de dire à un enfant, tu travailles pour toi. C'est anti-biblique. Les dons que tu as reçus de Dieu, fais-les fructifier. Ils sont pour bénir les autres. Cette culture-là, qui est profondément biblique, elle est aux antipodes de notre culture individualiste, où tu travailles pour toi. Faut arrêter ça. Alors non, on n'est pas indemne, hein, de notre éducation. Moi non plus. Et donc, on se rend compte que Dieu veut faire un travail de repentant, c'est-à-dire la métanoïa. Repentez-vous, disait Jean-Baptiste, ça veut dire change de façon de penser. Donc, il faut qu'on ait un christianisme qui passe d'une repentance qui est la conviction des péchés, qui est juste, qui est fondamentale, à une repentance qui soit le changement de mentalité. Et c'est ça qui va véhiculer le goût d'une réforme. Et j'aime bien cette citation d'un catholique, un prêtre du 19e siècle, Don Bosco, qui disait ceci, « Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. » Et confiance et foi, c'est deux mots presque identiques. « Faire confiance, espérer, aimer, telle est l'attitude du Père envers nous, tel est l'essentiel de toute la spiritualité chrétienne de l'éducation. » Et intéressez-vous, si vous avez le temps un jour, intéressez-vous à l'histoire de cet homme de Turin, la ville en Italie, quand il prenait les voyous de la rue, la ville avait abandonné ces gamins. Et lui, il les a pris chez lui. Il les a formés et ces gamins s'en sortaient. Et la ville, au bout d'un moment, elle a dit, mais comment vous faites? Et c'est quoi votre programme pédagogique, quoi? Et lui, il a dit, je les aime comme un père. C'était son seul programme. Il a sorti les gamins voyous des rues. Il y a eu une transformation, conversion, l'évangile au cœur et la paternité de Dieu qui se déverse. Ça, c'est parmi des grands éducateurs qui influencent encore aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on appelle les salésiens, les écoles salésiennes, les catholiques. Elles se basent là-dessus. Alors parfois, il n'y a plus grand-chose de cette sève-là, mais quand même. Donc vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit, et je le vois parfois, de gens très sincères et qui aiment le Seigneur, tout ça, ils disent, il faut pas mélanger l'éducatif, c'est professionnel. Hein, on est dans une dynamique professionnelle. Donc, on n'est pas des parents. Alors c'est vrai, mais il faut pas s'impliquer affectivement. Hein, il faut les distances, vous transmettez des savoirs, voilà. Mais le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on pense, le problème, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que c'est l'enseignement selon la Bible? Et on voit le cœur de l'apôtre Paul, par exemple, enseignant, il dit, moi c'est plus que l'enseignement que je vous ai donné, il dit, moi c'est ma propre vie que je vous ai donnée. Donc on voit que enseigner bibliquement, c'est transmettre sa vie. Alors bien sûr, l'exigence est bien plus grande, mais c'est dans cette relation, dans ce relationnel qui est rempli de vérité et aussi d'affectif, hein, ce relationnel-là, qui crée le climat qu'il faut. Je prends un autre exemple en Suisse. Vous avez un homme qui s'appelait Pestalozzi. Pareil, il avait pris des orphelins et il les appelait les pouilleux de la ville de Stans en Suisse. Et c'était, il y avait eu des guerres, tout ça. Et puis bon, des gamins, pareil, hein. C'était comme en Afrique aujourd'hui, dans certains, au Sénégal ou autre. Vous avez des enfants sans domicile, sans rien, dans la rue, comme les animaux sauvages, hein. Et donc ce gars-là, il les a pris chez lui 80. Il en a pris 80. Il avait une dame qui s'occupait de la cuisine, mais lui s'occupait de tout. Il mangeait avec eux, il dormait avec eux, il voulait les enseigner. Alors pendant 6 mois, il n'a rien pu faire avec eux. Parce que c'était le désordre, c'était, il se battait, il se tirait les cheveux, enfin c'était la panique quoi. Hein. Mais il a persévéré. Et dans un de ses livres, il dit, bon, j'avais un seul principe, c'est la relation. Et il a dit, et une fois que j'ai pu choper leur cœur, alors ça y est, j'ai pu les enseigner. Et donc, il y a eu une sorte de révolution pédagogique et ces 80 gamins ont pu, ils apprenaient. Il y a des histoires succulentes. Quand le soir, après 8 heures d'apprentissage, il leur dit, alors les enfants, vous voulez encore apprendre ou voulez-vous reposer, jouer? Et ils répondaient, on veut apprendre encore. Alors, c'était pas toujours, mais quand même, les gens du monde entier, de toute l'Europe, sont venus voir, à Yverdon en particulier, mais comment il fait ce bonhomme, quoi? Il avait un truc, mais le truc qu'il avait, c'était, j'ai une relation avec eux, je vis avec eux, je donne ma vie. Et ça, c'était le secret. Donc, vous voyez, on a parlé des fondements bibliques, hein, les commandements de Dieu, sa parole, la notion de vérité. Alors, vérité, on aurait beaucoup de choses à dire, mais enseigner en vérité, ça veut dire quoi? Bon, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Quelques fondements de l'histoire, et bon, je sais que vous êtes déjà, pour beaucoup d'entre vous, influencé par déjà ce genre de thèse. Mais la première école, rappelez-vous, la première école, elle était où? C'était quoi? C'était Éden, jardin d'Éden. C'était la première école. Elle n'avait pas de mur. Elle était dans un jardin. D'accord? Et dans ce jardin, on entendait la voix de Dieu. Le premier élève, vous savez comment il était appelé? Alors vous allez me dire Adam et Ève. Oui, mais Adam, vous savez comment il était appelé? La Bible l'appelle la généalogie dans Luc chapitre 3, Adam était fils de Dieu. Le premier élève de l'humanité était un fils. Moi, je trouve ça intéressant, vraiment intéressant. Un fils. Ce n'était pas seulement Adam, c'était un fils de Dieu. Et je crois que là, on a la dynamique de la vision d'école, créée à l'image de Dieu, instruit par Dieu. Et ils étaient dans ce jardin. Voilà. Ça, c'est une sorte de modèle d'une classe, vous allez me dire, idyllique, paradisiaque, mais c'est le cœur de Dieu, ça. C'est le cœur de Dieu. Et le rachat qu'il opère, c'est pour que des déserts, il veut refaire des jardins. Et des endroits d'école qui peuvent être des déserts affectifs, des déserts de sens, des déserts d'humanité parfois. Hein. C'est parfois dur à l'école. Hein. Eh bien, Dieu veut en faire des jardins. Et là, il est toujours bon de revenir à l'origine. Alors, la famille, c'était le premier lieu d'apprentissage dans les Écritures. Le rôle de la famille, les patriarches et tout ça, hein, c'était l'éducation au sein de la famille. Et lorsque dans Exode 10, Moïse se fâche avec Pharaon et dit « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel ». Enfin, on leur dit que l'Éternel soit avec vous. Donc, il craque, Pharaon, après avoir dit non, 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 non. Au bout d'un moment, il craque, il dit, bon, allez, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Et ensuite, il dit, non, 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 c'est un Normand un peu. Hein. Allez-y, puis ensuite, non, 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 vous les hommes, servez l'Éternel, c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence du Pharaon. Bon, il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Regardez, il dit, les hommes... Allez-vous les hommes, mais sans les enfants. Le but du peuple d'Israël, c'était d'aller adorer Dieu. D'accord? On veut adorer Dieu. Donc, laisse-nous partir d'Égypte, on doit aller adorer. Et Pharaon qui dit, bon, allez, juste les hommes, femmes et enfants, vous restez en Égypte. Alors là, moi, je trouve qu'il y a un truc énorme là. L'ennemi n'est pas tellement gêné quand des hommes se lèvent pour l'évangile. Mais l'ennemi commence à être gêné aux entournures quand ce sont aussi les femmes et les enfants. Et comme Dieu est un Dieu de famille, il ne va pas laisser partir les uns sans les autres. Et il veut que tous, hommes, femmes, enfants, rentrent dans l'héritage. Donc là, vous avez Pharaon, c'était une principauté spirituelle qui a toujours voulu enseigner les enfants dans toutes les dictatures. Vous prenez Staline, vous prenez toutes les dictatures. L'objectif numéro un, l'instruction. Monopole de la formation, enseigner les enfants. Et celui qui enseigne les enfants, eh bien, il est celui qui enseigne la nation futur. Donc toutes ces stratégies, les musulmans l'ont compris aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'établissements musulmans en France. Et heureusement qu'ils ont cette liberté, on va pas leur... Hein. Mais voilà, ils veulent une cohésion entre leur foi et tout ça. Il n'y a que nous, parfois chrétiens évangéliques, bon, on a du mal, on a du mal. Mais bon, c'est en train de changer. Donc vous avez d'autres passages qui nous montrent cette notion de la famille. Donc ça veut dire que le cadre que Dieu a prévu pour l'éducation, et ça c'est très important, c'est la famille. Alors nous, quand on pense à famille, on pense à papa-maman, mais c'est faux. La famille au sens biblique, c'est beaucoup plus large que papa-maman. Quand Dieu parle de la famille, c'est le tonton, c'est la tata, c'est le peuple de Dieu. C'est la famille de Dieu. Et donc Dieu a dit, mon éducation, je la veux dans la famille. C'est une histoire de famille. Et donc, le contexte familial est le contexte où l'on apprend le mieux. Parce que dans la famille, on se sent en sécurité. Dans la famille, on se sent aimé. Dans la famille, on se sent valorisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et Dieu n'a jamais prévu qu'il y ait une éducation en dehors du contexte d'une alliance. Et c'est, au niveau théologique, c'est vraiment le cadre de l'éducation. C'est de l'alliance. Nous sommes un peuple de l'alliance. Et donc l'enseignement doit se faire dans le cadre de l'alliance. Regardez, lorsque le premier mot connaître apparaît dans la Bible, une des premières fois, c'est pas le mot enseigner, mais le mot connaître, c'est Yada, et c'est avec Abraham, lorsqu'il a connu sa femme. Donc c'est les relations dans le cadre du mariage. C'est le mot connaître, intéressant. C'est-à-dire que la première fois que le mot apparaît, c'est dans le cadre d'une alliance. La Bible nous dit, il n'y a pas de connaissance véritable possible en dehors de l'alliance. Regardez, quand Dieu dit, quand Dieu se fait connaître à nous, on ne peut pas connaître Dieu vraiment sans avoir une relation avec lui. Pas possible. Donc, c'est grâce à son alliance qu'on peut le connaître. D'accord ? Mais ce qui est vrai pour Dieu, c'est vrai pour tout le reste. Je ne peux rien connaître vraiment en dehors d'une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que le schéma de la connaissance, c'est pas moi avec les objets de la science, et puis relation comme ça, c'est moi, Dieu et la science. Et c'est-à-dire que c'est avec lui que j'apprends, c'est avec lui que je regarde, c'est avec lui que je comprends. Donc la famille, le climat familial, c'est le climat que Dieu a prévu. Voilà. Donc il serait faux, voyez, de dire que le seul modèle biblique, ça serait la famille, dans le sens c'est papa et maman qui doivent faire toute l'instruction à la maison. Il y a des mouvements d'école à la maison qui prétendraient que ça, c'est les parents, c'est pas juste. Hein. Les parents, bien sûr, c'est la première responsabilité, mais lorsqu'il est dit dans le livre des Proverbes, par exemple, mon fils, etc., il s'agit de l'enseignant qui parle, mais l'enseignant, c'est pas forcément le père biologique. Ça peut être le tonton, ça peut être le membre de la famille de Dieu. L'école du désert, on en a parlé ce matin, c'est Dieu qui tire son peuple au désert, c'est pourquoi je veux l'attirer, le conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Et je vous ai noté, l'école du désert, c'est cette belle image de ce qu'est l'éducation, et de ce que signifie l'intégration de la vérité à la vie. Et cette école du désert, c'était pas un accident. Avant d'entrer en terre promise, il y avait des leçons à apprendre. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ces histoires, c'est cette mise à part d'Israël. Ils voulaient un peuple saint. Ça veut dire mise à part. Il n'y a pas de sainteté sans mise à part. Le christianisme est né avec une mise à part. Vous prenez par exemple l'apôtre Paul. À l'époque, c'était quand vous rencontriez le Seigneur, la tradition voulait que vous alliez dans le désert 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à ce que Dieu te transforme. Et c'est en Arabie que Paul a eu les révélations. Donc conversion, il s'est pas tout de suite mis à évangéliser, conversion, phase 2, désert, rencontre avec Dieu, transformation. Des années après, c'est devenu l'apôtre. Et donc cette notion de mise à part avec Dieu, c'est toute la tradition de l'Église qui nous montre ça. Et nous verrons tout à l'heure aussi ça. Donc Moïse a été enseigné dans la même classe que celle où il a dû aller lui-même enseigner, le désert. Il a dû précéder sa classe pour la même période de temps, 40 ans. Donc l'enseignant est celui qui y précède. Mais cette école du désert, rappelez-vous. Et alors quand on la lit, c'est succulent parce que lisez l'Exode avec un regard de parent, d'enseignant, d'éducateur. Et vous allez voir que Dieu utilise les 5 sens, l'odorat, le toucher, la vue, pour former son peuple. Donc c'est un Dieu vraiment... je suis convaincu que dans les Écritures, vous avez un traité de pédagogie qu'on n'a pas encore totalement déchiffré, mais qui est là, qui est là. Prenez, par exemple, les dernières recherches sur le cerveau humain, sur la mémoire à long terme, on nous a dit que pour passer de la mémoire à court terme à long terme, il fallait qu'il y ait quelque chose, un événement qui choque, qui saisir l'attention, quoi. Et Jésus, quand il parle du fils prodigue, le fils prodigue qui arrive chez les cochons, tac, les juifs, cochons, juifs, oh, choqué. Et bam, l'amour du Père qui est balancé. La parabole du fils prodigue a été décryptée au niveau des dernières sciences neurobiologiques, etc., des neurosciences. Ils ont marqué qu'il y a une pédagogie extraordinaire. Et je suis convaincu que les recherches, il y a des recherches en éducation au plus haut niveau, à des niveaux doctoraux, etc., aux États-Unis, avec la Bible, hein, il y a des gens qui passent leur vie à faire de la recherche pédagogique. On se dit, mais attends, mais c'est ce qui se passe. Et je crois que c'est juste. Je crois qu'on n'a pas encore tout déchiffré. Donc, dans Deutéronome 32, il est dit, c'est Dieu, il a trouvé le peuple d'Israël dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, son peuple. Regardez, ça, c'est le rôle de l'éducateur, hein. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Prenez ce texte. Vous avez par exemple verset 12, le mot conduit. On fait un bond jusqu'à l'évangile. Parabole du bon berger. Le bon berger conduit ses brebis. Vous vous rappelez le passage, hein, il les conduit dehors. Eh bien, le mot français éducation vient du mot éduquit, qui veut dire conduire au dehors, tiré de la parabole du bon berger dans la version latine, 14e siècle. Donc éduquit, le mot français éducation vient directement des Écritures. Éduquit. Vous vous rendez compte? C'est le bon berger qui dit eh oh, c'est moi qui veux conduire. Et les premiers mots pour instituteur en France, dans l'histoire de l'enseignement en France, on ne parlait pas d'instituteur, on ne parlait pas d'enseignant. On a parlé des conductrices et des conducteurs. Les conductrices de la tendre enfance, c'était le premier mot pour désigner les enseignantes. Donc Dieu qui conduit son peuple. Là, nous avons et regardez comment il conduit, pas avec un bâton, hein. Regardez l'attitude avec laquelle il conduit. Et ben ça, c'est le cœur d'une éducation chrétienne. C'est Dieu veut conduire son peuple, veut éduquer son peuple. Et cette école du désert, c'était un succès. Il y a eu des échecs, bien sûr. Vous remarquez que les échecs sont pas toujours dus à l'enseignant. Parfois, nous, enseignants chrétiens, on voudrait que ça soit formidable et tout, mais parfois, il y a des échecs. Parfois, c'est dû à nous. Mais parfois, c'est dû aux élèves qui restent libres. Et j'aimerais le signifier ici. L'école chrétienne, c'est pas une usine à fabriquer des chrétiens. Les enfants doivent rester libres. Et sinon, c'est de la manipulation, hein. Donc, l'école, on est là. Comme les parents d'ailleurs, on est là, on enseigne selon le Seigneur, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu qui lui-même fait sa tâche, alors il faut pas vouloir le remplacer. Hein. Et donc il y a des enfants qui choisissent de ne pas suivre. Et je trouve c'est pas négatif, parce que si c'était du sans arrêt, on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a pas un peu d'endoctrinement quand même, de manipulation, hein. Et je crois que l'école chrétienne c'est pas un lieu de manipulation, c'est un lieu où on laisse libre la volonté des enfants. Mais on propose et on fait tellement envie qu'au fond, eh ben, ils se donnent au Seigneur. Nous, à l'établissement Daniel, ils arrivent en troisième, quand ils ont fait maternelle primaire, tous, ils sont au Seigneur. Tous. Alors, il y a des casse-pieds, hein, il y a des turbulents, il y a tout ce que vous voulez. Mais en troisième, ils sont tous disciples du Seigneur. Ils aiment tous le Seigneur. Et alors, en lycée, c'est tous des jeunes qui ont fait le choix. On prend en lycée que les jeunes qui veulent y être, pas les papas, mamans, hein, eux-mêmes qui font le choix d'y être. Et là, ça donne une dynamique de lycée formidable. Encore cette année, ils nous ont dit, bon, on pourrait pas avoir une salle pour jeûner et prier. Ils aiment bien manger, les ados, normalement. Ben là, ils veulent jeûner. Alors, les enseignants, ils aiment bien manger aussi. Ils disent, mince, les enfants, ils veulent jeûner, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, mais on les laisse. Donc, on leur a laissé une salle, ils prient, ils jeûnent, ils font leur truc. Avec Manuela, nous étions à Brignoles, à l'école de Brignoles, il y a deux semaines, un peu moins. Une conférence comme ça, et pendant ce temps, les enfants de l'école étaient gardés. Si vous voulez, l'école primaire, hein. Ils étaient gardés par une enseignante. Puis l'enseignante, elle nous voit après, elle nous dit, mais écoutez, l'après-midi, les enfants, moi j'avais tout un programme, mais ils n'en voulaient pas de mon programme. Ils ont dit, nous on veut passer l'après-midi à prier. Alors attends, ça a duré 3 heures l'après-midi. Ils ont prié 3 heures. Et à la fin de l'après-midi, cette institution, elle les a lâchés dans le public, les enfants. Et les enfants, Donc on commence à prier pour les gens, imposition des mains, parole prophétique. Oh là 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 là. Je dis, mais ça c'est une école chrétienne intéressante, vous voyez. Donc c'est cette présence de Dieu qui, ce désert, cette mise à part, qui est importante et qui fait qu'on reçoit une autre culture, en fait, d'autres références, et pour mieux ensuite impacter et être celle et lumière dans notre monde. Là, je vous donne deux définitions d'un enseignant. Nous sommes, vous voyez, nous sommes dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Alors, ça, c'est beaucoup de lectures et parfois je trouve des pépites comme ça. Regardez Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, qui dit ceci: le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. Vous avez remarqué que notre mot français, on parle d'élève. Vous avez remarqué qu'on parle d'élève, on parle d'élever. Vous n'êtes jamais posé la question? Élever vers qui? Tout enseignant, porteur de signes, élève, les élever. Il y a quelque chose là qui nous dit, instituteur, institué, fondé. Notre vocabulaire là, oulala, il est riche et il véhicule une vision de l'enseignement de laquelle malheureusement on essaie de s'éloigner. On estime, disait Jérôme, 331-420, un grand sculpteur, un grand peintre, mais qu'est-ce que leur art à côté de celui qui travaille non sur le marbre, les marbres, S, mais sur les esprits. Donc l'enseignant, c'est ce sculpteur d'âme. C'est comme ça qu'on les appelait, les sculpteurs d'âme. Nous arrivons au 4e siècle, Saint Augustin. Augustin, alors lui, c'est un sacré bonhomme. Ce gars-là, il a influencé 1000 ans d'histoire. 1000 ans d'histoire. 1000 ans de culture. Vous dites, mais comment il a fait? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit, il a formé des disciples, et même quand, à la fin de sa vie, il était à Hippone, en Afrique du Nord, en actuelle Kabylie, eh bien, tout était, semblait perdu, les Vandales ont tout ravagé, enfin bref, ça semblait foutu, tout ce travail d'une vie. Mais il avait su influencer d'autres, qui ont ensuite influencé toute la pensée du Moyen-Âge, avec le Seigneur au centre, dans les arts, dans les lettres, etc. Il a transmis, dans ses écrits, une vision biblique du monde. Et voilà ce qu'il dit sur les enseignants. Alors, quelques phrases type: si tous les deux nous voyons que ce que tu dis est vrai, si tous les deux nous voyons que ce que je dis est vrai, où, je te prie, le voyons-nous? Moi, assurément, c'est pas en toi, toi, c'est pas en moi, mais tous les deux dans l'immuable vérité qui est au-dessus de nos esprits. Et cette phrase extraordinaire: partout où l'on peut trouver la vérité, elle appartient à notre Dieu. Vérité historique, vérité grammaticale, vérité physique, vérité biologique. Toute vérité est vérité de Dieu. Donc ça, c'est c'est le début du christianisme. Hein. Et cette influence chrétienne, lorsque saint Augustin parle des enseignants, il leur dit: nous parlons, mais c'est Dieu qui instruit. Nous parlons, mais c'est Dieu qui enseigne. Ça, c'est la vision école chrétienne. C'est-à-dire que l'instruction, c'est le cœur, c'est Dieu lui-même. C'est ça le but. Alors, on prétend pas hein, que c'est la réalité de tous les jours, bien sûr. Mais voilà. Mais on sait que c'est ce que Dieu veut. Il veut enseigner au travers de vous, parents, au travers des enseignants. Votre charité le sait, continue-t-il, nous n'avons qu'un seul maître. Et sous son autorité, nous sommes ses condisciples. Nous ne sommes pas vos maîtres parce que nous vous parlons du haut d'une estrade, mais le maître de tous est celui qui habite en nous tous. Et c'est là que j'aime beaucoup, lorsqu'il fait la description d'une école, d'une salle de classe, il dit: il n'y a pas un maître et des élèves. Il y a un seul maître, c'est le Christ. Un grand élève, c'est l'enseignant. Et les petits élèves, c'est les élèves. Un seul maître, voyez. Et puis alors, lorsqu'il dit par la foi, mais également par la raison, l'homme a la possibilité de s'approcher de la vérité. Cette fameuse raison qui a voulu se débarrasser de la foi, le rationalisme français. Hein. Dieu dit, elle est appelée à travailler avec la foi. Et la foi, elle éclaire la raison. Et la raison, elle éclaire la foi. Et quand Dieu est un Dieu qui réconcilie, je peux vous assurer, la raison française, elle a été meurtrie, elle a été blessée. Et de la même façon qu'on parle de la blessure des émotions, il y a une blessure de l'intelligence en France que Dieu veut guérir. Et moi, quand mon ami Pierre Kranga parle du fils prodigue, un jour, je vois, c'était comme cette image, le fils prodigue, c'est comme l'intelligence française, voyez, qui un jour a dit au XVIIIe siècle, j'ai plus besoin de Dieu, je suis assez grande. J'ai plus besoin de révélation. Les universités, il n'y a plus besoin de théologie, il n'y a plus besoin de la Bible. On est grand, voyez, on est autonome. Et on dit maintenant dehors. Et on s'est retrouvé. On se retrouve aujourd'hui comme le fils prodigue, perdu, loin de la maison du père, avec les cochons, l'intelligence. plus de signes, plus de limites, plus de repères. L'école chrétienne, c'est quoi? C'est une maison du Père dans laquelle Dieu veut faire revenir ses fils et ses filles et guérir les intelligences, de façon à ce que la raison travaille en harmonie avec la foi et que l'idole du rationalisme tombe une fois pour toutes. Dieu est un Dieu rationnel, mais Dieu n'est pas rationaliste. Et c'est là qu'on a cette raison qu'on a idolâtrée, qu'on a portée, je rappelle, à Notre-Dame de Paris, sur des épaules d'hommes, à la Révolution française. On a fait rentrer une déesse. Ils ont dit, tu es notre déesse, tu es la déesse raison, nous t'apportons notre adoration. Et Notre-Dame de Paris était remplie des révolutionnaires qui se sont prosternés devant cette idole en bois qu'on appelait la raison, mais qui traduisait une réalité spirituelle. Vous voyez, ça c'est... Voilà, donc il n'y a pas de neutralité, décidément. Et alors nous arrivons à l'époque carolingienne. Un petit peu avant, il y avait les écoles monastiques. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais bon, non, c'est pas là. Les moines. L'Europe était envahie par les invasions barbares. Hein. Donc tout ce qui était église, implantation d'église, tout ça, tout a été mis sans dessus-dessous. Il fallait tout recommencer. Comment ? Comment réévangéliser l'Europe ? Eh bien, moi, quand j'ai vu ces stratégies, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dieu a vraiment quelque chose pour nous. Ça a été en particulier en Irlande. Vous connaissez ? Il y a les moines irlandais qui adoraient 24 heures sur 24, qui ont eu un fardeau pour l'Europe et qui se sont dit, il faut qu'on évangélise l'Europe. Comment ils s'y sont pris ? Ils arrivent par équipe, déjà travail d'équipe. Évangélisation, 1. Implantation d'église, 2. Formation, 3. Donc école, apprentissage, etc. Et les trois ont toujours marché ensemble. Et dans l'histoire de l'église, quand vous enlevez un de ces trois piliers, évangélisation, ou formation, ou implantation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu peux implanter autant d'églises que tu veux, s'il n'y a pas la formation, ça ne marche pas. Tu peux faire la formation autant que tu veux, si tu n'évangélises pas et tu n'implantes pas, ça ne marche pas. Donc les trois sont nécessaires. Et on voit chez ces moines, chaque fois qu'ils avaient une implantation d'église, ils allaient dans le village ou la ville à côté. Et moi, l'Alsace, par exemple, la Suisse, les noms des villes, beaucoup de noms des villes, sont les noms de ces moines irlandais qui ont implanté des lieux d'adoration. Et c'est quand même intéressant de voir que ces lieux de... Aujourd'hui, on parle des maisons de prière. Il y a vraiment un réveil au niveau des maisons de prière. Mais vous savez que les maisons de prière, au temps de ces moines-là, c'était des centres d'adoration, mais aussi des lieux de formation. Et il est intéressant de voir que les mouvements d'implantation d'écoles chrétiennes vont en même temps que les mouvements d'implantation de maisons de prière. Parce que l'Europe a été évangélisée par la prière, par la formation, par l'adoration, l'évangélisation. Donc ça, c'est des moines irlandais. Donc, par exemple, à Guebwiller, nous avons dans une vallée une abbaye, l'abbaye de Murbach, qui était un lieu d'adoration, de formation, qui a rayonné pendant des siècles. Donc chaque lieu d'adoration était un lieu de formation. Retenez ça, parce que c'est la vision de Dieu. Et puis alors Charlemagne, alors lui, regardez, voilà sa vision. Il faut établir des écoles où l'on enseigne les lettres, les saintes écritures, de telle sorte que les élèves méritent d'être appelés celles de la terre et résistent aux hérésies comme à l'antéchrist. Voilà, c'est clair, c'est net. Le réveil carolingien, c'est des écoles où la parole de Dieu est au centre. Et Alcuin, son bras droit, qui était l'instituteur, son instituteur qui a fait tous les programmes, ça a été le réveil carolingien. Et puis il y a deux. Alors c'est pareil, c'est toujours pareil. Ça monte, hop, ça descend. C'est comme les manèges. Hein. On monte, il y a une réveil, il y a une réforme. On oublie, hop, on redescend. Ensuite on est paumé, au secours Seigneur, hop, on remonte. C'est ça l'histoire, malheureusement, l'histoire d'Israël, l'histoire de France. Et là vous avez la carte de France des universités. Le cœur c'est Paris. Et Paris, ce modèle, a influencé toute l'Europe. Et vous avez tous les noms que vous voyez. C'est les noms de grands intellectuels de l'époque, qui étaient tous chrétiens. À l'époque, intellectuel, c'était être chrétien. C'était impensable d'être un intellectuel sans Christ. Quoi. Aujourd'hui, on dit, mais c'est le contraire. Mais bon, c'était ça à l'époque. Et ils ont reproduit le modèle de Paris partout. Oxford, vous avez toute l'Espagne, l'Italie, les pays de l'Est, etc. Donc il y a un moment, si vous voulez, où Paris a été utilisé dans les mains de Dieu pour toucher les nations et pour faire des nations des disciples. Alors là, je fais un raccourci, vous faites le plongeon au XXe siècle, et là, c'est terrible. Vous avez au XXe siècle, ce même Paris, cette même université, on a formé les plus grands dictateurs du monde et de l'Afrique, Cambodge, Chine, etc. Le marxisme, Paris. Donc, c'est comme l'ennemi, il voit un truc là. Ça marche pour le royaume de Dieu. Ouh là là ! Mince alors ! Et il est embêté. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Perverti, fausse doctrine, il veut détruire ça, c'est pas possible. C'est trop dangereux, comprenez ? Si l'Église s'occupe d'université, attends, il faut arrêter. Il risque d'influencer les nations. Vous comprenez ? C'est dangereux. Donc, il faut surtout pas leur donner l'idée de la formation. Surtout pas ! Trop dangereux. Donc, il y a eu ensuite ça cartonnait, quoi. Ça a été dur. 14e siècle déjà, la Bible était loin d'être l'interprétation biblique aujourd'hui, des tas de déviations doctrinales, tout ça. Mais ensuite, au 18e siècle, l'Église a dit, moi, l'université, je m'en fiche, sauf les catholiques, encore une fois. Et puis, petit à petit, on arrive à ce véhicule des universités pour véhiculer toutes les plus grandes doctrines enfermantes, emprisonnantes de l'humanité. Donc, voyez, décidément, cette ville de Paris, prions pour Paris. Prions pour ces écoles de Paris, il y a vraiment un enjeu. Et ce Bonaventure qu'on a vu ce matin, je vous donne une deuxième citation de lui. Celui que tant de splendeur crée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris n'éveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, affûte ton cœur. Toutes les créatures se feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ce grand Dieu. Toute la création parle de lui. Voilà ce qu'il voulait dire. Juste au niveau de l'heure, tu me dis, je ne me rappelle plus quand on a commencé. Donc je ne me trompe pas, que je n'aille pas trop loin. Hein ? Voilà, tu me dis. Hein ? Voilà, d'accord. Donc bonne aventure. La première citation, on l'a vue ce matin. Deuxième, regardez. La terre, si elle n'est éclairée par la lumière, ne peut pas être vue. Et pareillement, les enseignements des diverses disciplines, bien que chacun concède sans nul doute qu'ils sont parfaitement vrais, il faut croire qu'on ne pourrait les comprendre s'ils n'étaient pas éclairés par Dieu, comme par le soleil. Ça, c'est une belle vision de la formation. Voilà. Et nous arrivons à la réforme. Alors, on démarre juste avant la pause. Mais la réforme en France, à Montauban, dans le sud-ouest, dans la vallée du Rhône, etc., la réforme, le premier mot, ça c'est l'historien Michelet, 19e siècle, qui a dit ceci, le premier mot de la réforme, c'est l'école. L'école. Ça a été vraiment l'obsession de la réforme. Et un témoignage d'un historien actuel de l'université de l'Ouest, qui n'est pas chrétien, mais qui dit ceci, ces écoles ont certainement constitué une arme puissante dans l'éducation de la foi et de la morale, et assurer pour longtemps, bien au-delà de l'Ancien Régime, une imprégnation chrétienne de la société française que le catéchisme paroissial, les sermons, l'émission, certes confortés, mais dont l'école a été l'instrument le plus efficace. Et alors, et c'est né comment, et je vais bientôt couper là, la motivation des écoles chrétiennes, du temps de la réforme, et ça m'a bouleversé quand j'ai réalisé ça, la motivation, c'est Luther, Martin Luther. Alors déjà une vision, regardez ce qu'il dit. Pour moi, si je pouvais, devais cesser l'œuvre de la prédication, je ne verrais pas de plus chère charge que celle de maître d'école, d'instituteur d'enfants. Quelle vision quand même pour un réformateur. Il aurait voulu être instituteur. Mais il a dit, bon, Dieu m'a appelé être prédicateur. Et il continue d'ailleurs le texte en disant, les prédicateurs, ils doivent redresser ce qui est tordu. Et parfois, il y a de la casse. Mais un instituteur, il fait pousser droit. Et donc, c'est cette vision qu'il avait. Mais il a envoyé un ami qui s'appelait Melanchthon visiter toute l'Allemagne. Et le but, c'était, fais-moi un rapport de l'état de la jeunesse et des écoles en Allemagne. Nous sommes au début du XVIe siècle. Et cet homme, nous avons encore les écrits de cet homme, c'est en allemand, c'est un peu dur à traduire parfois tout ça, mais bon, c'est un état déplorable. Il n'y a plus de vision pour les enfants, plus de vision pour la formation. L'éclatement des familles, corruption des mœurs généralisées, un goût de mort sur toute l'Allemagne. Et alors, quand Luther reçoit ses retours, les uns après les autres, Dieu lui parle. Et ça, c'est moins connu dans l'histoire de la Réforme. Et Dieu lui parle avec ce texte-là, Lamentation de Jérémie, chapitre 2, versets 11 et 12. « Mes yeux se consument dans les larmes,
Mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville, ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Et ça a été la parole qui a déclenché un mouvement d'implantation d'écoles chrétiennes sur toute l'Allemagne, toute l'Europe du Nord. Ça a rempli toute l'Europe. Donc c'était quoi la motivation, si vous voulez ? C'est une intercession pour la génération qui demande où est le blé et le vin. Le blé, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est la vie de Dieu. Et ce cri a été entendu. C'est un cri que la Bible décrit de cette façon-là, mais c'est un cri réel. Et une de nos enseignantes, je me rappelle, il y a des années, quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit, ah ben ça alors. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, mais tu sais que pourquoi je suis venu ici ? Alors j'ai dit, bah, parce que tu as compris la vision. Elle a dit, non, avant ça, avant de comprendre, j'ai entendu un cri. Et elle a dit, c'était le cri des enfants. Et c'est pour ça que je me suis engagé ici. Et elle ne savait pas que ce cri était dans les Écritures et qu'il avait été entendu au temps de la Réforme. Et Jésus qui dit, il est dit de lui, étant ému de compassion devant les foules sans berger, il s'est mis à les enseigner. Donc la motivation de l'enseignement, de l'école chrétienne, la motivation, ce n'est pas vouloir dominer, ce n'est pas vouloir donner des leçons aux autres. La motivation, c'est vraiment la compassion de Dieu. Cette compassion de Dieu qui a entendu le cri d'une génération. Et je crois que ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc ça, c'est le détonateur. Ce texte-là a été le détonateur des milliers d'écoles chrétiennes partout en Europe. Voilà, on va faire une pause et on reprendra et terminera par une dernière session tout à l'heure.